Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Pourquoi en moi y a-t-il toujours ce sentiment d'une mission? Cette conviction que j'ai quelque chose à faire ici, sur ce sol, quelque chose que personne ne pourrait faire à ma place et qui, si je ne le fais pas, serait perdu pour toujours. Cette vie ne manque de rien. Alors pourquoi cet espoir? Pourquoi ce creux en moi, ce trou dans l'acier plein de la vie qui fait appel d'air, m'expulse de moi-même, ce creux qui me tire vers ce but, le dehors? Liberté intérieure à chacun de nous dont je ne sais au juste si l'idée même a un sens. Je ne sais si ce que je cherche de toutes mes putains de forces à faire éclater comme un soleil en miettes n'est pas déjà là, en moi, accompli et éclatant. Je trouve juste important ça, reprendre la main, ensemble. Alors peut-être que je le fais vraiment pour les gens, que par cet appel d'air, ce qui sort de moi pour aller vers eux est l'espoir le plus prétentieux du cosmos. Leur apprendre à vivre. Du bas de mes 30 ans. Par amour.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu, tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, avec moi dans les studios, il y a Nicolas Guépin et Benjamin Maillet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on vous propose une carte blanche et vous êtes venus nous parler, entre autres, d'un spectacle qui s'intitule « Le dehors de toute chose » dont on vient d'entendre un extrait. Il s'agit d'un texte d'Alain Damasio qui est en réalité un roman, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Oui, c'est adapté de la zone du dehors.
Voilà, et qui est adapté donc et joué par Benjamin et mis en scène par Nicolas Guépin. Et vous êtes aussi venu avec plusieurs textes qui vont rattraper un peu retracer les différentes thématiques qu'on retrouve dans ce spectacle. Donc du coup, avant d'en parler plus, on vous propose d'écouter un panel de différents textes par les voix de Nicolas Guépin et de Benjamin Maillet. C'est à vous.
Nous allons commencer avec « Inflammation du verbe vivre » de Wajdi Mouawad. Le théâtre est né en Grèce, sous le siècle de Périclès. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont morts avant le siècle de Périclès? En général, on dit qu'il englobe tout le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais si vous êtes d'avant Périclès, le concept de Jésus-Christ ne doit rien représenter pour vous. On peut toujours dire que le siècle de Périclès englobe le 9e siècle après Ramsès II, mais je ne sais pas si ça peut aider. Alors, contentons-nous d'un simple, il était une fois à Athènes, sous le règne de Périclès, des humains. Pour des raisons que l'on ne comprend toujours pas, ces humains ont créé un système politique où les citoyens avaient la liberté de décider de leur destin. Démocratie. Chaque citoyen avait le droit de faire valoir publiquement son point de vue sur une question d'intérêt général. Prenant la parole sur la place du marché, il pouvait parler sans craindre d'être interrompu. Puis, un autre citoyen était libre de faire valoir un avis contraire. Par la suite, les autres choisissaient de se ranger derrière l'un des avis exprimés, lui accordant leur voix. Celui qui avait recueilli le plus de voix voyait sa vision adoptée. Mais, très vite, les Athéniens se sont rendus compte que celui qui s'exprimait le mieux et remportait les suffrages n'était pas toujours celui qui avait les meilleures idées. Le parler beau ne menait pas forcément au parler juste. Frappé d'étonnement devant la puissance du langage qui pouvait conduire un peuple entier à se jeter dans le faux, le désir du vrai est né chez les Athéniens. Et, de ce désir, l'amour. Un amour qui s'est appelé philosophie, qui lui-même a fait naître le plus surprenant enfant que l'Occident ait vu paraître sous son soleil. Un enfant mystérieux, joyeux comme la lumière, féroce comme la pierre, un miroir incarné dans un lieu ouvert vers le ciel, tourné vers la mer, où l'humain pouvait contempler sa douleur et celle de son époque. Un endroit d'où l'on voit le théâtre.
Ruy Blas, Victor Hugo. Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pour d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil sans combattre. En Alsace, Brisac, Steinfort, en Luxembourg, en toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Hormuz, Goa, 5000 lieues de côte et Fernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme. La Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays ami. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette. Et l'infant bavarois se meurt, vous le savez. Quant à vos vices, roi, Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandre. Vos démons vont Milan, les gagnés espèrent les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent. L'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères, perdu 300 vaisseaux sans compter les galères. Et vous osez! Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on pressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez, et vous voulez mes maîtres, ah j'ai honte pour vous, aux dedans routiers raîtres, vont battant le pays et brûlant la moisson, l'escopette est braquée au coin de tout buisson, comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces, tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsures d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres, l'herbe y croît, quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages, a 100 coupes-jarrets qui parlent sans langage. Génois, Sardes, Flamands, Babel est dans Madrid. L'alguazil dure aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit, on assassine et chacun crie à l'aide. Hier, on m'a volé, moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Anciens vainqueurs du monde, espagnols que nous sommes, quelle armée avons-nous? À peine 6000 hommes. Qui vont nu-pied? Des gueux, des juifs, des montagnards, s'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Aussi d'un régiment toute bande se double. Sitôt que la nuit tombe, il est une heure trouble où le soldat douteux s'en transforme en larron. Matalobos a plus de troupes qu'un baron. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne, hélas! Les paysans qui sont dans la campagne insultent en passant la voiture du roi. Et lui, votre seigneur, plein de deuil et d'effroi, seul dans l'Escurial avec les morts qu'il foule, courbe son front pensif sur qui l'empire croule. Voilà! L'Europe, hélas, écrase du talon ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste et vous vous disputez à qui prendra le reste. Ce grand peuple espagnol aux membres énervés qui s'est couché dans l'ombre et sur qui vous vivez expire dans cet antre où son sort se termine, triste comme un lion mangé par la vermine. Charles Quint,
Dans ces temps d'opprobre et de terreur, que fais-tu dans ta tombe, ô puissant empereur ? Oh, lève-toi, viens voir, les bons font place aux pires. Ce royaume effrayant fait d'un amas d'empires. Penche, il nous faut ton bras au secours, Charles Quint, car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'éteint. Ton globe qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant, qui faisait croire au monde que le jour désormais se levait à Madrid, maintenant astre mort, dans l'ombre s'assombrit, lune aux trois quarts rongée et qui décroît encore, et que d'un autre peuple effacera l'aurore. Hélas, ton héritage est en proie aux vendeurs. Tes rayons, ils en font des piastres, tes splendeurs, on les souille. Ô géant, se peut-il que tu dormes ? On vend ton sceptre au poids, un tas de nains difformes se taillent des pourpoints dans ton manteau de roi, et l'aigle impérial qui jadis, sous ta loi, couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, cuit, pauvres oiseaux plumés, dans leur marmite infâme.
Mourir pour tes idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus goût le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Les saints Jean Mouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent, bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien paumer lesquelles. Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage en hésitant tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin ici-bas tout changea, tout s'arrangea. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, ô
au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais là, je dors sans cesse et remis au calendrier. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les bouts de feu, ô vous les bons apôtres, mourrions les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres. La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente. D'accord mais de mort lente.
Horace de Corneille, acte 4, scène 5, Horace Camille.
Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères, le bras qui rompt le cours de nos destins contraires, qui nous rend maîtres d'Albe. Enfin, voici le bras qui seul fait aujourd'hui le sort de deux états. Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire, et rends ce que tu dois à l'heure de ma victoire.
Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois.
Rome n'en veut point voir après de tels exploits, et nos deux frères morts dans le malheur des armes sont trop payés de sang pour exiger des larmes. Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu.
Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu, je cesserai pour eux de paraître affligé, et j'oublierai leur mort que vous avez vengée. Mais qui me vengera de celle d'un amant pour me faire oublier sa perte en un moment?
Que dis-tu, malheureuse ?
Oh, mon cher Curias !
Oh, d'une indigne sœur, insupportable audace ! D'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur ? Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire, ta bouche la demande et ton cœur la respire ? Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs, ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Tes flammes désormais doivent être étouffées. Bannis-les de ton âme et songe à mes trophées. Qu'il soit dorénavant ton unique entretien.
Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien. Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, rends-moi mon Curias ou laisse agir ma flamme. Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Tu ne revois en moi qu'une amante offensée qui, comme une furie attachée à tes pas, te veut incessamment reprocher son trépas. Tigre altéré de sang qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort je trouve encore des charmes et que jusque au ciel, élevant tes exploits, moi-même je le tue une seconde fois. Puisse tant de malheurs accompagner ta vie que tu tombes au point de me porter envie. Et toi, bientôt souillé par quelque lâcheté, cette gloire si chère à ta brutalité.
Ô ciel, qui vit jamais une pareille orage, crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage que je souffre en mon sang, ce mortel déshonneur ? Aime. Aime cette mort qui fait notre bonheur et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.
Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Puisse tous ses voisins ensemble conjurer, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour la détruire et les monts et les mers, qu'elle-même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses entrailles.
que le courroux du ciel, allumé par mes vœux, fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir.
C'est trop. Ma patience à la raison fait place. Va dedans les enfers plaindre ton curiace.
Ah, traître!
Ainsi reçoive un châtiment soudain, quiconque ose pleurer un ennemi romain.
La zone du dedans, ou réflexion sur une société sans air, un essai d'Alain Damasio en postface de l'édition du monologue Le dehors de toute chose. En puissance. La vie, toujours, est première. Toujours, elle perce les conforteresses. Elle est ce feu qu'on peut couvrir et étouffer, mais qu'on n'éteint jamais tout à fait. Pour qu'il reprenne, il lui faut simplement de l'air. On en manque aujourd'hui, parce qu'on croit que l'air vient seulement du dehors, qu'il suffit d'aller en chercher le vent, de sortir de la matrice par une porte dérobée. Le secret pourtant est simple. L'air ne se trouve pas, il se crée. Il vient du dedans. On ne le puise pas, on le fabrique avec nos poumons. On le forge avec nos souffles. Pendant longtemps, j'ai pensé que toute position politique digne tenait dans ce mot. Résistance. Aujourd'hui, je dirais plutôt puissance. Pas au sens de pouvoir, autorité ou suprématie. C'est même rigoureusement l'inverse, puisque le pouvoir n'est à mes yeux que du désir qui tétanise. Une crampe, une impuissance qui s'institue. Donc puissance au sens de capacité à, d'aptitude incarnée à être et à faire directement, à agir à nu. Ni délégation aux élus, ni médiation, ni sous-traitance à nos machines amies. Puissance de vivre avec une boule de soleil à 1,75 m de haut entre les deux omoplates. Puissance de porter et de faire croître les forces de vie autour de nous, au point où plus rien ne puisse décemment les affaiblir, les ronger ou les rogner, en blanchir les couleurs ou en délaver l'énergie. Puissance d'aller au bout de ce qu'on peut, de ne plus être coupé de ce qu'on peut. Demandez-vous chaque jour que Dieu ne fait pas, qui et qu'est-ce qui me coupe de ce que je peux? Qui me sépare des forces qui poussent et vibrent, que je sens là, dans mon ventre et mes bras, dans mon corps qui bout et qui bat? D'où tombent tous ces murs, toutes ces vitres en moi et ce que je veux être? D'où sortent ces faux ponts, ces faux liens, ces logiciels à faire qui me défont? Pourquoi cette vie moderne est mince et mutilée, morcelée, ces désirs que je me castre, ces césures et ces autocensures sans cesse? Où retrouver cette sève qui monte dans le tronc de ma colonne vertébrale en un seul jet lent? Comment retrouver la sensation d'un sang qui m'irriguerait tout entier des pieds à la tête avec l'épaisseur et la chaleur d'une lave? Qui fauche mes bonds? Quoi? Ce sont les questions propres à l'enjeu de la puissance. Savoir y répondre, individuellement et collectivement, est plus précieux que de trouver un énième angle critique, une énième stratégie de combat face au libéralisme qui nous phagocyte.
Pierre Desproges, Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. La page sur Paul Éluard. Sur le collier du chien que tu laisses au mois d'août, sur la vulgarité de tes concours de paix, sur l'étendard nazi et sur le drapeau rouge, sur la rosette au coin du vieillard officiel, sur les blousons kaki, sur les képis dorés, sur le cul blanc des féministes, sur le mandrin des misogynes, sur le béret obtus de chauvins aveuglés, sur la croix des cathos, le croix des athées, sur tous les bulletins et sur toutes les urnes où les crétins votants vont se faire entuber, sur l'espoir en la gauche, sur la grommette en or de mon coiffeur de droite, sur la couenne des cônes aplatis sur les plages, sur l'asphalte encombré de cercueils à roulettes, sur les flancs blancs d'acier des bombes à neutrons que tu t'offres à prix d'or sur tes impôts forcés, sur la sibylle humiliante et dérisoire qu'il faut tendre pourtant à tous les carrefours pour aider à freiner l'ardeur des métastases. Sur le mur de la honte et sur les barbelés, sur les fronts dégarnis des commémorateurs pleurant au cimetière qu'ils ont eux-mêmes empli, sur le petit écran qui bave encore plus blanc, sur l'encéphalogramme éternellement plat des musclés, des Miss France et des publicitaires, sur l'étendard vainqueur de la médiocrité qui flotte sur les ondes, hélas, abandonné aux moins méritants des handicapés mentaux, sur la Bible et sur Mein Kampf, sur le Coran frénétique, sur le missel des marxistes, sur les choux-fleurs en trop balancés aux ordures quand les enfants d'Afrique écartelés de faim savent que tu t'empiffres à mourir éclaté, sur le nuage, sur la lune, sur le soleil atomique, sur le cahier d'écolier de mes enfants irradiés, j'écris ton nom. Homme.
Sécurité, impunité, Stéphane Beauverger, une nouvelle du recueil Appel d'air paru aux éditions Trois Souhaits.
Porte de Bagnolet. Signe de la main. Stop. Jolie nana. Miam. Elle se gare, obéissante. Miam, miam. Elle baisse sa culotte vitre. J'approche lentement. Elle va me donner les papiers du véhicule. Trouille dans ses yeux. Elle est encore plus mignonne, vraiment. Tu sais pas encore précisément ce qui t'attend, pas vrai ma belle? J'adore. Vraiment. Tour de sa bagnole, la main sur la bite matraque. T'as rien à te reprocher? Je vais trouver. T'es pressé? Je te garderai tant que je veux. Tant que je ne te rendrai pas ton permis, t'es à moi. Tant que je le voudrai, t'es à moi. J'ai fini mon tour. J'ai trouvé. T'es à moi. Allez, elle va me faire un petit sourire et j'oublie l'amende.
Quelle amende?
Votre vignette d'assurance, là. Pas à jour.
Mais je l'ai.
Elle doit être bien visible sur le pare-brise. C'est pas bien. Je bande souris. T'es pressé? T'as des gosses? Un mec? Tu aimes te faire reluire, ma belle? Tu resteras garé ici, à mes pieds, tant que je le désire. Je le veux. Allez, un petit sourire gentil au policier et elle repart libre comme l'air. C'est pas si dur d'obéir, si? Elle obéit, la conne. Elle a compris. Je souris bande. Jolie bouche. Circulez! Elle démarre et disparaît, soumise et furieuse. J'aime bien aussi quand elle proteste et panique. Je préfère qu'elle chiale devant moi plutôt que toute seule, plus tard. Demain, la semaine prochaine, dans un mois, je les ferai sortir de la voiture. Marcher un peu sur le trottoir. J'adore. 9h20. Signe de la main. Stop. Jolie nana. Miam. Je l'ai bien droite. Je l'ai bien dure. C'est moi qui décide. Décomplexé. Je suis couvert. Vous m'avez voulu.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. discussion. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Entretien avec Miguel Benassayag en préface à De la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Nous savons aujourd'hui que ce qui touche au pouvoir, c'est toujours du Shakespeare. Le bruit, la fureur, les crimes, la raison d'État, qu'il y a des pouvoirs plus ou moins pourris, mais qu'il n'y a pas de pouvoir propre. Dans ces conditions, les mécanismes de l'oppression et de la soumission, y compris volontaires, sont permanents au même titre que les mécanismes de libération et de résistance. La symétrie entre les deux tient au fait que l'obéissance se fonde sur l'auto-effacement, c'est-à-dire que dans l'obéissance, je n'existe pas. Dans l'obéissance, un être humain se comporte comme des processus multiples agencés à la discipline. Dans la résistance et dans la désobéissance, il y a un mouvement. Un mouvement joyeux ou douloureux, mais un mouvement qui consiste au contraire à faire exister quelque chose. Dans la désobéissance, il y a quelque chose qui émerge, à commencer par soi-même en tant qu'acteur d'une époque, membre d'un collectif, d'une action. Il y a un éveil à soi, mais sous la forme d'une prise de conscience qu'on n'est pas individuel, qu'on est tissé par les processus de son époque, des processus socio-historiques. C'est un éveil à soi comme nœud de l'universel. Tu cesses de penser que ta vie est « papa, maman, mon portefeuille ». Parce que l'éveil à soi est un éveil à tout autre que soi. Tu découvres que tu n'as jamais été aussi singulier que quand tu te laisses traverser par l'époque. Tu renonces à ce petit moi insignifiant à affronter la petite mort pour ne pas avoir la grande mort. À cet éveil à soi, et cet éveil à soi, il faut le voir comme quelque chose de banal, sans héroïsme, mais en danger ton petit moi, ta survie. Tu n'es pas né pour garder la voiture au garage et la bichonner. Tu es né pour partir sur la route avec ta voiture.
Mesure pour mesure de William Shakespeare, scène entre Angelo, qui a le pouvoir, et Isabelle qui vient demander la grâce de son frère.
Je ne sais parler qu'une seule langue, mon bon seigneur. Laissez-moi vous conjurer de revenir à votre langage précédent.
Comprenez bien, je vous aime.
Mon frère aimait Juliette, et vous me dites qu'il doit mourir pour cela.
Il ne mourra pas, Isabelle, si vous me donnez votre amour.
Je sais que votre vertu prend des libertés qui paraissent un peu plus noires qu'elles ne le sont pour éprouver les autres.
Croyez-moi, sur mon honneur, mes paroles disent ma pensée.
Ah, que peu d'honneur pour être beaucoup cru, et une bien vilaine pensée. Hypocrisie, hypocrisie, je te dénoncerai, Angelo, prends-y garde. Signe-moi immédiatement la grâce de mon frère ou bien à plein gosier, je clamerai à la face du monde quel homme tu es.
Qui te croira, Isabelle ? Mon nom sans tache. L'austérité de ma vie, mon témoignage opposé au vôtre et mon rang dans l'État pèseront d'un tel poids sur votre accusation que vous étoufferez en me dénonçant et sentirez la calomnie du lieu. J'ai commencé et désormais je lâche les rênes à ma sensualité, consent à satisfaire mon âpre désir. Écarte toutes ces délicatesses et ces rougeurs tardives qui repoussent ce qu'elles espèrent. Sauve ton frère en livrant ton corps à mes volontés, ou bien non seulement il lui faudra mourir, mais ta méchanceté lui vaudra une longue et affreuse torture. Réponds-moi demain. Sinon, par cette passion qui me gouverne maintenant, je serai pour lui un tyran. Quant à vous, dites ce que vous voudrez. Ma fausseté l'emporte sur votre droiture.
À qui me plaindre ? Qui me croirait si je racontais cela ? Ô bouche redoutable qui ne renferme qu'une seule et même langue pour condamner ou pour absoudre, qui oblige la loi de s'incliner sous leurs caprices, harponne le juste et l'injuste et les contraigne d'aller là où elles veulent.
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Don Juan aux enfers. Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine et lorsqu'il eut donné son obole à Charon, un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, d'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendant et leurs robes ouvertes, des femmes se tordaient sous le noir firmament et, comme un grand troupeau de victimes offertes, derrière lui traînait un long mugissement. Sganarelle, en riant, lui réclamait ses gages, tandis que Don Luis, avec un doigt tremblant, montrait à tous les morts errant sur les rivages le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, près de l'époux perfide et qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir. Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne daignait rien voir.
Personne ne portera de deuil, car je n'ai pas d'amis et je ne fais que des conneries. On me traite de raté, loupé, foireux, taré, pourri. Parce qu'un jour défoncé à l'extasy, je découle à Walpi une feuille de vigne sur le zizi, à la recherche de mon Ève, brandissant mon flyer. Sauf que c'était pas une rêve,
c'était le mariage de ta sœur,
la porte à Wack. La scène
S'il vous plaît, attendez. Et toi, Christophe, attends.
Tu sais, si c'est vrai que tu fais des conneries, c'est pas toi qui as fait voter des morts à Paris.
T'as pas balancé des chars sur la place Tiananmen.
T'as pas balancé d'arabes en 61 dans la Seine.
T'as pas griffé tes frontières de mine antipersonnelle.
T'as piqué le Sénat de taxi à une classe maternelle.
T'as jamais participé au réseau France-Afrique.
T'as pas essayé d'interdire les médicaments génériques.
T'as pas pris en viager
la maison de Jeanne Calment.
Tu décides pas d'ouvrir les maisons de redressement.
Tu n'accuses pas de vol les paysans sans terre.
Tu finis pas ton vol sur le World Trade Center.
Tu commandes pas le football sur TF1.
Tu vis pas tourner ta copine avec tes copains comme un joueur.
T'as pas inventé la course, préparé ta carte. Et dis pas la peine de mort dans certains cas, faut voir.
T'as jamais licencié pour faire monter l'action.
Tu vas pas à la pêche les dimanches d'élection.
T'as jamais transfusé le sida à des hémophiles.
C'est pas toi qui a dessiné les plans de Tchernobyl.
T'as pas dessiné les Aztèques, les Mayas, les protestants, les juifs, les albanais, les tutsis, les hutus, les croates, les kurdes, les tziganes, les tibétains, ni les apaches. Tu rentres pas dans les églises à coups de hache. Alors tu vois,
c'est cool, c'est cool, c'est cool.
Peut-être y a-t-il d'abord en nous le chien qui mord, l'animal domestique qui se croit loup parce qu'il vit en bande et qu'il a les crocs longs, la bête qui, à l'approche des maîtres, agite le métal de ses chaînes pour qu'on les lui détache, s'étouffe en sautant et éclabaude de rage de ne pouvoir les mordre. Oui, en nous vit ce mâcheur de viande froide, l'aboyeur des rêves voltarimés à sa niche, le souleveur de chenilles qui croit montrer sa foi en montrant ses morsures, dégage son cou pelé pour preuve de sa bravoure et qui jappe, lutte, lutte, bien qu'il ne sache plus pourquoi, toujours à quêter cette pâtée qui ne vient pas à apte juste à glapir, à courir et à aboyer lorsque les autres aboient. En chacun de nous aussi, poursuivi mais ne s'en souciant plus, se déplace un tigre. Un de ces tigres pourpres, aux roquements de roc broyé, animal au sang bleu, au regard jaune d'aurore et de prime horizon, sans rêve pourtant, qui disloque d'une griffe les agrégats de sable, s'en nourrit et défèque sur ses traces des coulées d'or que la meute piste. Qui s'éloigne des villes, des chiens et de leurs niches, voyage, parcourt si loin, si longtemps que la meute croit qu'il fuit, alors qu'il ne fuit que le sable qui arase ses pattes et alourdit ses bonds, qu'il ne cherche aucune proie et qu'il ne s'arrêtera qu'au matin de ce jour où de son ventre coulera, de ses grains avalés, le tigron d'or à la fourrure de blé.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle. Vous venez d'entendre les voix de Benjamin Maillet et Nicolas Guépin. C'est une carte blanche à la compagnie Chambre Noire Théâtre. Merci à tous les deux pour ce grand panel de textes que vous nous avez lus. C'est pas anodin que vous nous ayez lu ce type de texte-là, puisque vous êtes aussi venu nous parler, entre autres, d'un spectacle dont on vient d'entendre un extrait qui s'appelle Le dehors de toute chose d'Alain Damasio, qui est donc, je le répète, je l'ai dit en début d'émission, adapté d'un roman d'Alain Damasio. Mmh. Et l'adaptation a été faite par toi, Benjamin. Tu joues dans le spectacle, c'est un monologue.
Ouais.
Et c'est mis en scène par Nicolas Guépin.
Exactement.
Alors, peut-être pour un peu nous éclairer sur vos propositions de texte aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un résumé, si c'est possible, de ce monologue et de quoi ça parle en fait ?
Alors, le monologue reprend pas l'histoire du roman, pour ceux qui connaissent, mais vraiment des passages plus poétiques, ce qu'on a pu entendre là d'ailleurs, philosophiques et politiques au sens premier du terme, vraiment les choses de la cité, pas le parti politique. Tel que on l'a mis en scène et tel que c'est joué, c'est une personne qui se pose des questions, qui cherche des réponses, des solutions dans une situation qui lui paraît un peu inextricable, un confort qui est là. Voilà, il y a peu de détails concrets qui sont donnés, et voilà, et qui va essayer de faire évoluer sa pensée concrètement. En ayant peur, en ayant des rêves et en louvoyant à travers tout ça, et non sans humour à des moments donnés, non sans colère à d'autres moments, non sans tristesse, voilà, avec pas mal d'émotions, et qui recherche, qui n'est pas là pour imposer sa réflexion et ses idées, mais pour les partager. C'est vraiment un spectacle de partage, d'échange et d'énergie pour amener chacun à réagir. Benjamin ?
Ouais, c'est pour moi les enjeux principaux du texte, c'est cette notion de devenir développée par Deleuze dans pas mal de ses bouquins, et de libération d'un certain conditionnement. Le personnage que j'incarne se sent a envie d'être autrement et a l'impression qu'à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose d'autre, en fait, il rentre dans un nouveau frayage et dans des espèces de systèmes automatiques que le système lui impose, que le système induit justement sans jamais imposer, qu'on est toujours dans une démocratie très gentille, très soft et très douce. Et la question qui se pose, c'est en fait comment est-ce qu'on fait pour se rebeller contre quelque chose qui ne nous fait pas de mal, enfin qui ne nous fait pas souffrir, soi-disant. Et il redéfinit ces notions de faire, de mal, faire du mal et de souffrance, et qu'est-ce que lui a envie d'en tirer à ce moment-là pour essayer de devenir autre que ce qu'il est et que ce qu'on l'enjoint à être.
Bah, c'est une grande question, hein, c'est très vaste, je crois que, en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, pourquoi cette envie de monter ce texte-là? Du coup, à travers ce texte, votre volonté, votre envie, elle est de dire quoi? De dénoncer quelque chose? De soulever des questions auprès du public, dans son intériorité?
Alors, au moment de l'adaptation du texte, alors, donc, c'est adapté de La Zone du Dehors d'Alain Damasio, aux éditions La Volte. C'est un bouquin qui a été édité en 99 d'abord, et moi qui me semblait, qui a pour moi un énorme caractère visionnaire, puisqu'en 99 internet en est à ses débuts, que les réseaux sociaux n'existent pas, et que ce que dénonce entre guillemets Alain principalement dans ce roman là, c'est une démocratie totalement consensuelle et concitoyenne où tout le monde juge tout le monde avec pour base un instrument technique, technocratique qui s'appelle le clastre, donc qui classe et qui castre, et qui donne la position de la société, la position à chaque individu dans la société suivant ses notes, le résultat de ces notes-là. Les critères des notes étant définis par l'État, l'État se permet donc d'avoir en haut de l'État ceux qui correspondent le plus à ses propres critères définis par lui-même. Et donc, tout le monde votant pour tout le monde et likant tout le monde, ses supérieurs, ses subalternes et les gens qui sont au même niveau que toi, moi, ça me fait grandement penser à notre cher réseau social au pouce bleu. Et c'était donc écrit en 99. Si je ne m'abuse, Facebook a été créé en 2004. Donc, je crois que je peux assumer le fait de dire que sur ce coup-là, il a été visionnaire, même s'il pense que sur d'autres, il ne l'a pas été. Et donc moi il y a ça en fait, au départ il y a cette notion là de consensus mou, de démocratie soft qui ne dit pas son nom, contre laquelle on veut pas se rebeller, ou on peut pas, ou quand on dit qu'on veut le faire on nous dit mais de quoi tu te plains, t'as tout le confort, t'as tout ce que tu veux, nanani, c'est pas, il y a pas de guerre, il y a pas, tu souffres pas de famine ni de mal logement. Non, effectivement moi je n'en souffre pas, c'est pas pour ça que cette souffrance n'existe pas dans le monde et même dans notre pays. Et puis il y a cette notion de puissance contre le pouvoir dont j'ai un peu parlé sur la lecture du texte de La Zone du Dedans, qui suit donc le texte de Dehors de Toute Chose dans son édition. Et cette notion de dehors, donc de mise en danger de soi et de ce qu'on a l'habitude d'être pour aller chercher à l'intérieur de soi et à l'extérieur des solutions pour s'inventer comme autre que soi.
Ok. Du coup, c'est un spectacle qui peut se jouer dans quelles conditions? C'est un spectacle que tu peux jouer partout, avec un petit dispositif, et du coup on est vraiment dans sa réflexion, ou est-ce que ça se joue dans des lieux que des théâtres? Comment ça se passe?
Alors, le spectacle a été conçu pour être joué vraiment dans pas mal d'endroits différents. Il a évidemment sa forme théâtrale, sachant qu'il est quand même mieux dans je le vois pas trop, dans un espace avec 4000 places, retransmission vidéo, il y a quand même un truc de rapport au public. Mais voilà, il peut avoir sa forme théâtrale avec vraiment des lumières travaillées. Mais il a également une forme beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Benjamin, il l'a joué dans pas mal de lieux différents, en adaptant des choses, en gardant vraiment la construction de base du spectacle, mais en ayant parfois des lumières, parfois non. Parfois le dispositif scénique qui est assez simple, qui est censé être une échelle normalement, mais qui peut être un tabouret. Et donc oui, il l'a même joué à Paris sur une fontaine, c'est ça?
Sur la fontaine, mais je l'ai joué au pied de la statue de la République.
Voilà.
Ah oui.
Donc non, il est très adaptable, puisque l'élément principal de ce spectacle est quand même Benjamin.
Voilà. Donc, ouais, c'est le texte d'abord, donc bien sûr, voilà, le comédien. Mais oui, on s'est attaché à mettre en avant le texte, et Nicolas, par sa mise en scène, a apporté juste le soupçon de dramaturgie qu'il faut pour que ça englobe un peu tout ça, que ça fasse le lien et que ça rende le propos un peu plus ample et un peu plus intelligible, parce que c'est vrai que c'est un peu des grosses balles de concept qu'on se prend à blanc dans la boîte crânienne par moment. Il fallait apporter un peu plus de vie et d'humanité à ce personnage qui ne peut pas être juste une voix.
Ouais.
Mais en même temps, garder ce côté très oratorio, en fait, qui me permet de jouer dans une librairie au pied de la fontaine de la place de la République à Paris.
C'est très symbolique, là.
Ouais, c'était à l'invitation de Nuit Debout le week-end dernier, c'était assez chouette. Il y a des librairies, il y a des bars,
donc c'est un
des théâtres.
Tout terrain,
c'est un spectacle tout terrain cool. Que j'ai joué dans. Oui, parfois j'ai la lumière, parfois j'en ai pas, parfois j'en ai, mais c'est pas la lumière du spectacle. Parfois j'ai mon accessoire, mon échelle, parfois j'ai un fauteuil de bar, parfois j'ai rien du tout.
Voilà, on attend l'autorisation pour aller jouer au MEDEF, ils doivent nous répondre sous peu.
Oui, mais c'est bien, mais c'est chouette parce que
je rigole, mais je suis sûr que je peux demander en plus.
Ça permet de l'amener un peu à toutes et à tous, et du coup en parlant de l'amener à toutes et à tous, je crois qu'il y a une tournée qui se profile, et il y avait une volonté de faire une tournée justement.
Ouais, c'était début février. On jouait au Clameur, justement, un chouette bar dans le 7e à Lyon. Et deux jours avant, en fait, en deux jours, je reçois deux messages, un d'une personne de Lille et un d'une personne de Montpellier que je n'avais pas contacté moi-même et qui m'ont demandé si on pouvait jouer le spectacle chez eux. Et puis ça a fait qu'un tour dans ma tête. On était début février, tout le monde commençait à parler des élections, et je me suis dit, bah, profitons des élections et du fait que ça va résonner de manière un peu plus précise et plus ample pour essayer d'aller tourner ce truc-là. Et en fait, j'ai lancé un appel, que ce soit sur scène à la fin de la représentation ou sur Facebook, en disant aux gens qui connaissaient le texte, est-ce que vous connaissez des lieux en France, Lyon, sa région ou le reste de la France, où jouer ça? Et plein de gens qui m'ont répondu, et j'ai pu envoyer une cinquantaine de mails pour une vingtaine de réponses. Et il y a 16 dates entre le 7 avril et le 7 mai. Termine le 7 mai avec une contre-soirée électorale au café ciné-club l'Aquarium.
Ah oui, à Croix-Rousse.
À Croix-Rousse.
Sur le plateau.
Ouais.
Ok. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver les dates si on a envie de venir?
La page Facebook du spectacle qui s'appelle Le Dehors de Toute Chose.
Ok, donc on tape sur Facebook Le Dehors de Toute Chose. Et si jamais on n'a pas Facebook, on peut quand même y accéder.
Normalement, on peut quand même y accéder puisque c'est une page ouverte.
Via Google. Quoi.
Via Google, ouais. Voilà, tout à fait.
Okay. Et la prochaine date à Lyon,
c'est samedi.
C'est samedi?
Samedi soir à l'Alternative Bar, et dimanche après-midi au Chalala pour la première contre-soirée électorale pour permettre, mais j'avais envie de créer un espace où on puisse venir regarder les résultats, qu'on vote ou qu'on ne vote pas. Moi personnellement, je n'irai pas voter.
Et boire.
Et voilà, qu'on puisse se retrouver dans un endroit sympa, avec des gens sympas, venus d'horizons différents, qui ont, malgré tout ce qui se passe, envie de parler, justement, ne veulent ni être dans la violence, ni être dans le défaitisme, ni être dans la joie à outrance, parce que il n'y a pas grand chose de quoi se réjouir, mais d'être tout simplement à pouvoir en parler, pouvoir créer cette espèce d'appel d'air et de discussion et de rassemblement propice à l'échange.
Du coup, c'est à quelle heure samedi et c'est à quelle heure dimanche?
C'est à 20h30 samedi et c'est à 17h dimanche.
Ok, donc le Chalala, c'est un nouveau lieu qui s'est ouvert dans les pentes de la Croix-Rousse.
Exactement.
Et l'Alternative Bar, c'est dans la montée de la Grande Côte, au début de la montée de la Grande Côte.
Ouais, bah les deux sont là en face de l'autre.
D'accord.
Chalala est au 95 de la montée de la Grande Côte. C'est au pied, l'Alternative Bar est en face.
Donc du coup, Le Dehors de Toute Chose, mis en scène par Nicolas Guépin sur un texte d'Alain Damasio et joué par Benjamin Maillet. Et ben, si vous voulez les voir, c'est ce week-end, montée de la Grande Côte, ils squattent la montée de la Grande Côte, quoi.
Ouais, complètement.
Malheureusement, on va pas pouvoir aller bien plus loin sur la discussion autour de ce spectacle, mais en tout cas, ça donne bien envie. Donc, je conseille à toutes et à tous d'aller soit ce week-end voir le spectacle, soit d'aller regarder les dates sur le Facebook Le Dehors de Toute Chose. Merci à tous les deux donc d'être venus avec tous ces textes et avec cette proposition d'émission.
Merci de ton accueil. Ouais.
Et puis surtout là, à deux jours des élections, c'est vrai que c'était un peu le moment de le faire.
Amusez-vous bien dimanche.
Voilà. Moi perso, je fais un apéro avec des potes pour regarder les résultats justement.
Pareil. Voilà. Ça, c'est le principe.
Voilà. Et puis, comme on a l'habitude au Théâtre de la Gamelle, on fait un petit agenda culturel en plus des spectacles dont on vient parler ici. Et je sais de source sûre que toi, Nicolas Guépin, tu as de l'actu.
Et tout à fait. Je joue actuellement au Théâtre de l'Uchronie, qui est rue de Marseille. Miguelito Tiempo Quanto, Empereur des Buissons Argentés, une pièce science-fiction années 70, écrite et mise en scène par Manuel Limignana. Un très beau spectacle poétique, plein d'action, une scénographie de malade.
Et drôle.
Et drôle.
Moi, voilà. Je l'ai vu, il y a des moments drôles. Et voilà. Une très belle scéno, enfin, c'est très chouette.
Et des lasers, des danseuses magnifiques.
Oui.
Et donc, ça joue encore.
Années 70, quoi.
Ça joue encore ce soir et demain à 20h30. La semaine prochaine, je vais jouer à l'acte 2, 14h30, je crois. Dans un spectacle de Willy Play, Alice au Pays des Merveilles, avec la grande Maud Roussel. C'est plus pour les enfants, mais il y a des blagues pour les adultes aussi.
C'est tout public ?
C'est tout public. Bon, après, c'est orienté jeune public, mais il y a des blagues pour les adultes.
Et du coup, ça peut être familial, quoi.
Complètement, oui, oui. Okay. Et ensuite, en mai, je crois, du 10 au 14, dans ces eaux-là, au Carré 30, je jouerai de L'étincelle jaillir à la flamme, du même Willy Play, écrit par lui, avec toujours Maud Roussel, sur quatre périodes de la vie de Lénine et de sa femme, Nadiajda Konstantinovna Krupskaya.
Donc ça, on en reparlera au Théâtre de la Gamelle. On le redira.
Superbe.
Bah, super, merci Benjamin. Des actus
bah ouais, en ce moment c'est pas mal le dehors de toute chose, donc je vais pas vous les refaire. Hein. Okay. 22, 23, les 3 et le 4 mai, on est à Villeurbanne, et le 7 à l'Aquarium.
Il y aura le lavoir.
Et puis il y a le lavoir public en juin. En fait, pendant toute la tournée, j'essaye de faire en sorte que des gens prennent des photos ou on filme. Voilà, j'essaie de mobiliser un peu des énergies, faire un espèce de rendu de la tournée, parce qu'à chaque fois on invite des associations à venir présenter leur initiative. Avant et après les représentations. Mmh. Et donc, pendant le bilan, pendant ces trois dates au lavoir public, on fera en sorte qu'elles leur ouvrir l'espace pour qu'elles viennent présenter leur travail aussi. Okay. Et puis, toujours au lavoir public, début mai, Vénus au bain, un travail avec Raphaël Patou qui dirige la Chambre Noire Théâtre. Et on a travaillé avec les jeunes du DMA,
oui.
Du lycée des métiers d'art, justement dans les Pentes aussi.
Le lycée Diderot ?
Ouais, le lycée Diderot. Ouais. On a travaillé sur la fabrication du costume et c'est mmh. La première fois qu'elles créent un costume pour un comédien sur le principe de transformation. Comment le comédien modifie le costume et comment le costume se modifie et que ça modifie le jeu du comédien. Voilà, ça c'est les 8 et 9, je crois, mai.
D'accord.
Au lavoir public.
Ok. Eh ben merci à tous les deux. La semaine prochaine, une émission consacrée à des textes de Howard Barker, préparée par Emmanuel Mering et moi-même, avec des lecteurs et des lectrices. D'ici là, on va vous souhaiter de passer un bon week-end. N'hésitez pas à aller au théâtre et à vous rendre dans les Pentes de la Croix-Rousse pour aller voir Le Dehors de toute chose. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine avec Howard Barker. Très belle fin de journée à toutes et à tous, et à bientôt avec le Théâtre de la Gamelle.
Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.